pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Voilà, une dame qui arrive.
C'est pour l'opération au carbone. Vous êtes venu avec quel moyen de locomotion ?
Voiture.
C'est une essence ou un diesel ?
Essence.
Vous connaissez la puissance fiscale ?
5 chevaux.
Toute seule ou accompagnée ?
Toute seule. Parfait, merci.
Un festival.
Non, c'était très bien, les gens sont au courant de par l'opération carbone. A priori, radio béton, ça fonctionne. On a l'impression qu'ils se sentent un petit peu coupables de venir en voiture et d'être tout seul. Donc, pas de jugement. C'est un questionnaire, c'est pour savoir.
Oui, parce qu'il y en a qui ne veulent pas.
Absolument pas. Aucun refus. L'opération au carbone, ah oui, j'en ai entendu parler.
On a un chouette festival, donc c'est normal qu'on ait des chouettes festivaliers. Voilà. Ils sont gentils, les gens.
Ils sont très gentils. Et on recommence ce soir.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off pour le premier épisode de cette série intitulée « Opération au carbone ». Le calcul du bilan carbone d'Au quart de tour, le génial festival organisé depuis 1986 par Radio Béton à Tours, région centre. Et à l'instant, on vient d'entendre la voix souriante de notre copine Steph. Stéphanie Attégan qui se tenait à l'entrée de l'édition 2019 d'Au quart de tour avec un questionnaire sur le déplacement des festivaliers. Et avant d'aller plus loin, disons-le tout de suite, comme ça sera fait, cette série d'émissions au carbone t'est dédiée, Steph. Tu nous as brutalement quittés en ce printemps 2022 et tu nous manques. Steph, tu resteras dans nos cœurs comme un être exceptionnel dans ton humanité, ta gentillesse, ta grande discrétion, ce qui ne t'empêchait pas d'être très concrètement investi dans de véritables actions d'écologie de terrain, comme par exemple l'organisation d'éco-festivals de quartier ou ton implication dans les énergies renouvelables ou, comme on va le voir aujourd'hui, avec ton travail sur notre opération au carbone. Et avec tes questionnaires, Steph, tu as étudié le principal point de dépense carbone du festival au car, les déplacements des festivaliers qui viennent au festival en voiture, en transport en commun ou en vélo. Alors si je vous dis que l'édition 2019 d'Au quart de tour a produit 172 tonnes de CO2, bon, comme ça, ça semble juste effrayant. Mais en fait, c'est pas si pire que ça comparé à bien d'autres festivals. Dans le domaine de l'écologie, comme du reste, Au quart de tour est un festival éthique et vertueux. Et il sera encore plus quand nous, le public, nous nous y rendrons sans nous servir de nos voitures individuelles, dans la mesure du possible, évidemment. Mais là, je vous ai spoilé l'une des conclusions de cette étude initiée par mon pote Val, Valérie Fauché, un homme plein de talent, notamment excellent guitariste, mais qui pour cette série ne sera pas le docteur Fauché, même si de base Val a quand même un doctorat en chimie, mais il n'aime pas qu'on le dise parce qu'il est modeste. Allez, direction Au quart de tour 2019, c'était dans le soi-disant monde d'avant. Salut Val.
Salut.
Alors c'est une espèce d'aventure un peu étrange qui nous attend pour cette émission et pour cette semaine d'Au quart de tour. C'est la 34e édition d'Au quart de tour, je crois. On est à la veille de l'été 2019 et avant de commencer à parler, à évoquer ce que tu vas faire pendant cette semaine de festival, d'où tu nous parles ? C'est quoi ton métier ? C'est quoi tes compétences ? Comment ça s'appelle la prestation que tu t'apprêtes à effectuer ? Toi, t'es docteur en chimie. On peut mettre un D majuscule à docteur, mais pas à chimie. Je peux t'appeler docteur.
C'est un titre que je peux porter, oui, en effet. Non, moi je suis consultant indépendant depuis 10 ans, à mon compte. Et auparavant, j'ai travaillé aussi dans le domaine de l'environnement, dans l'industrie. Depuis une dizaine d'années, je fais de l'analyse de cycle de vie, de l'éco-conception et des bilans carbone pour des entreprises et pour des produits.
C'est quoi qui a marqué sur ta carte de visite ?
Consultant en environnement, éco-conception, analyse de cycle de vie, management environnemental.
Qui sont tes clients ? Qui fait appel à tes compétences ? Avec mon esprit tordu, évidemment, tu vois bien la suspicion de greenwashing. Est-ce que ça t'arrive de faire ce genre de choses pour le grand capital ? Des gens qui veulent verdir un peu leur réputation ?
De toute façon, je bosse pour des industriels qui font des produits de construction, des produits de consommation, ou des organisations aussi. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. À partir du moment où quelqu'un dépense de l'argent dans l'environnement, si ce n'est pas lié à une obligation réglementaire, il cherchera à en tirer un bénéfice en termes de communication, ce qui est naturel aussi.
Les entreprises, elles ont des bornes de production de CO2 à ne pas dépasser. Il y a des règles.
Oui, certaines pour des très gros émetteurs type les cimenteries les métaux, la métallurgie.
Eux, ils ont des quotas.
Oui, ils ont des quotas.
Donc, ils ont besoin de gens comme toi pour mesurer, de toute façon, et évaluer.
Oui, enfin, d'autres cabinets, oui, tout à fait. Non, non. Là, c'est encore un autre niveau, on va dire. Non, moi, je vais aider des industriels, soit à réaliser une analyse de cycle de vie de leurs produits, et ensuite à les aider à faire des co-conceptions pour améliorer et optimiser la conception d'un point de vue environnemental de leurs produits.
Alors, les gens qui font appel à tes services, c'est parce qu'ils veulent effectivement... par ce biais, bah, être peut-être plus rentable aussi, enfin dépenser moins, rester dans les clous de la législation, et puis aussi, est-ce qu'il y a une histoire de marketing derrière ?
De toute façon, maintenant, leurs clients font un benchmark environnemental, de plus en plus.
Benchmark ?
Bah, c'est-à-dire une comparaison. Non, un industriel, quand il fait une analyse de cycle de vie, il a une idée en tête, derrière la tête, mais plutôt que de faire des allégations environnementales sans démontrer rien, quoi que ce soit, il réalise une analyse de cycle de vie, et ensuite, il peut faire des allégations environnementales basées sur les résultats de l'analyse de cycle de vie. Ce qui est autre chose que de mettre une photo d'ours polaire, par exemple.
Un rocker assoiffé, c'est moins triste.
Oh mais les rockers, c'est pas ça qui a le plus grand impact environnemental, à mon avis. Oh là là. Donc, par rapport à ce métier que j'exerce, je me suis posé la question des impacts environnementaux d'événements et aussi des loisirs. Parce qu'actuellement, on parle beaucoup de l'impact environnemental des transports et en l'occurrence du tourisme de masse, par exemple. Donc des loisirs, on va se dire. Et je me posais la question de l'impact environnemental que pouvait avoir un festival, qui est aussi un loisir tout à fait sain, mais pour voir la mesure que ça peut être par rapport à d'autres types de loisirs et par rapport voilà, à ce qu'on aime faire. Voilà, il y a des loisirs qui coûtent plus cher environnementalement parlant que d'autres. Et donc ça vaut le coup de savoir un peu où est-ce qu'on met les pieds. Ça, c'est un premier point. Donc le deuxième point, en faisant ça, c'est véritablement aussi plus sensibiliser l'ensemble du public et l'ensemble des organisateurs. Car à partir du moment où on commence à aller regarder un peu comment ça se passe d'un point de vue environnemental, d'un point de vue de ses impacts, ben, la sensibilisation et la prise de conscience des impacts environnementaux est plus facile. Donc, ce que je vais faire pour la 34e édition du Festival au Cœur de Tours, c'est que je vais réaliser un bilan carbone du festival. Un bilan carbone, ça correspond à mesurer, à déterminer les quantités de gaz carbonique, c'est-à-dire de dioxyde de carbone, que l'ensemble du festival va produire. Cette unité, ça sera le nombre de kilogrammes de CO2 par festivalier. Je crois que c'est la bonne mesure pour faire un bilan carbone sur un festival de cette nature. Voilà.
Ça fait déjà quelques années, Val, que sur, par exemple, les billets d'avion ou les billets de train, on t'indique le bilan carbone de ton parcours. Donc, c'est un gaz, déjà, qui est évalué en kilos. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ?
Ah là.
C'est l'unité de mesure dont on va servir, ça, le kilo de CO2.
On va se servir de kilo de CO2. Un kilo de CO2 carbonique, on arrive à le visualiser. Il pèse un kilo. C'est environ le volume de 3 à 4 pains de sucre.
C'est gros un pain de sucre. Si tu commences à calculer en pain de sucre, on va pas s'en sortir. Alors Val, on parle du CO2, mais ce qu'on va se dire est valable pour tous les gaz. C'est pas parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu qu'ils ne pèsent rien, qu'ils n'ont pas de masse. Or, le CO2, eh ben, il a une masse, il a un poids. C'est difficile à appréhender parce qu'on ne le voit pas.
C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne pèse rien. Tous les gaz ont un poids. Le plus léger des gaz, c'est l'hydrogène. Et le CO2, qui est un gaz, donc, a une masse. Sa masse molaire est de 44 grammes par mole. Bon, ça ne veut rien dire, sauf pour les chimistes. Donc, un gaz, ça représente un volume. Et ce volume a un poids. Imaginons, prends un cube, tu fais le vide et tu rajoutes du CO2. Si tu fais un cube d'un mètre carré et de 50 cm de hauteur, que tu fais le vide à l'intérieur et que tu rajoutes du CO2...
En branchant le pot d'échappement d'une voiture dessus ou...
Oui, pourquoi pas le pot d'échappement d'une voiture, si tu veux une image, ou au cul d'une chaudière aussi, pourquoi pas.
Donc par exemple, ta fameuse boîte de 1 mètre carré sur 50 cm de hauteur, ouais, tu la branches sur le pot d'échappement d'une bagnole et tu récoltes quoi ?
Tu récoltes 1 kg de CO2. Bon, en fait, l'image du pot d'échappement d'une voiture est un peu impropre parce que dans un échappement de voiture, il va y avoir du CO2, mais il va y avoir aussi de la vapeur d'eau. il faudrait pouvoir séparer le CO2 de la vapeur d'eau et puis aussi des oxydes d'azote. Mais imaginons par un procédé de filtration magique que le CO2 donc, passe. Bon, ce CO2 qui remplit ce volume, ou aussi qui remplit, on pourrait imaginer une baudruche d'un mètre de diamètre, bah, ça pèserait un kilo. Hein, imaginons une baudruche, tu fais la tare, tu la remplis de CO2 pur, et après tu la repèses, ça pèsera un kilo. Donc le CO2 a un poids, c'est pour ça qu'on parle en kilogrammes de CO2 ou en tonnes de CO2.
Si on filtrait notre fameuse boîte ou notre baudruche de 1 mètre de diamètre, est-ce qu'il y aurait aussi de la matière? Est-ce que...
Non. Pour qu'il y ait de la matière, il faudrait le refroidir pour qu'il devienne liquide.
Un petit tas de poussière de trucs carbone.
La seule poussière qu'il y aurait, c'est les particules en suspension que le pot d'échappement éjecte aussi. Mais ça n'a rien à voir avec du CO2. Non, le CO2, donc, c'est un gaz donc, qui est inodore, il est plus lourd que l'air, donc il se retrouverait en nappe au sol par le phénomène de densité. Voilà, le CO2, c'est comme la radioactivité. Voilà, on en émet, mais on ne peut pas le sentir, on n'arrive pas à le voir. Bon, dans la radioactivité, on a des détecteurs et elle peut nous toucher tout de suite, tandis que le CO2, bon, c'est plutôt les effets adverses qui vont nous arriver, c'est-à-dire le dérèglement climatique et toutes ces choses-là. Donc, kilogramme de CO2, c'est vraiment pas une unité intuitive, c'est pas des mètres, c'est pas des...
Et c'est l'unité que les États utilisent pour trafiquer, hein. On connaît l'histoire de droit à polluer, là, que les États peuvent se refourguer les uns aux autres.
Ça a une réalité physique, hein. Véritablement, quand on émet du CO2, on émet du CO2, à part que c'est du gaz, donc c'est volatile, volubile, on n'a pas l'impression que ça pèse, mais néanmoins, un kilogramme de CO2, oui, ça fait un volume de 500 millilitres. Si on prend du CO2 gazeux, ça va faire une baudruche de 500 millilitres et ça pèsera 1 kg. On en émet 700 milliards de tonnes.
On, c'est l'humanité. Hein.
C'est ça.
Ça va être un calcul facile à faire, puisqu'on est à peu près 7 milliards sur Terre en 2019, là pour le moment. Tu me disais 700 milliards de tonnes, en sachant qu'un États-Unien, ça doit en produire plus qu'un Éthiopien. Mais en moyenne, ça fait combien de CO2 par être humain?
Voilà, ça fait un chiffre de 700 tonnes, mais ça peut paraître... un peu trop énorme. On ne peut pas faire une division aussi.
Comment est-ce qu'on le mesure? Est-ce qu'il y a des appareils qui mesurent?
Tout CO2 dans l'atmosphère, alors il est vraiment mesuré depuis les années 50. La mesure officielle, on va dire la première qui a été faite officiellement, c'est à Hawaï, à Manoloa, je crois. C'est un observatoire des sciences, de géosciences. Et là, il mesure le CO2 depuis 50 ans. Là, c'est eux qui font la courbe d'évolution. Mais il faut savoir que les évolutions sont différentes en fonction des points sur la Terre. Là, actuellement, on est à un niveau de CO2 de l'ordre de 408 ppm dans l'atmosphère. Il évolue 2 ppm par an, ce qui est assez énorme. Hein.
Le CO2, c'est ce qui sort des pots d'échappement des avions, voitures. Est-ce qu'une centrale électrique, par exemple, ou nucléaire? Est-ce que l'unité CO2 intervient aussi là-dessus?
Ben oui, le CO2, c'est une très bonne unité pour mesurer, par exemple, en termes d'efficacité environnementale, pour mesurer le kilowattheure, la quantité de CO2 qui est émise pour produire un kilowattheure. Ah, c'est sûr qu'une centrale à charbon ou une centrale à gaz va émettre beaucoup plus de CO2, et c'est justement pour produire de l'électricité qu'une centrale photovoltaïque ou nucléaire, ça c'est clair. Il y a le CO2 aussi émis par tout ce qui est combustion pour les moyens de transport. Le CO2 aussi émis pour les moyens de chauffage, hein, quand on se chauffe au gaz. Le CO2 est émis aussi par l'agriculture intensive, ainsi que d'autres gaz à effet de serre, tels que le méthane et les nitrates, les oxydes d'azote, qui sont des gros gaz à effet de serre aussi. Quand c'est d'autres gaz que le CO2, qui ont eux aussi un potentiel de réchauffement climatique, eh bien, par exemple, dans le cas du méthane, produit principalement par l'élevage, le potentiel de réchauffement climatique est 25 fois plus fort que le CO2. C'est simplement son pouvoir masquant par rapport aux infrarouges qui sont réfléchis ensuite. C'est plus opaque, donc il y a plus de chaleur qui reste.
Pourquoi on l'aime pas le CO2? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Oh là là, mes cours de biologie sont lointains, mais est-ce que les plantes en rejettent pas non plus?
Non, les plantes absorbent du CO2. Ouais. En fait, quand on regarde la courbe du CO2, l'évolution du CO2, on voit qu'il y a une variation annuelle du taux de CO2 de l'ordre de quelques dixièmes de ppm. annuellement, qui correspond en fait au cycle de végétation et ensuite des décompositions. C'est-à-dire pendant la végétation, à partir du printemps, on a le taux de CO2 qui diminue parce qu'il est absorbé par les plantes et combiné à la photosynthèse, on va avoir donc une productivité végétale, de masse végétale. À partir de l'automne, l'hiver, tout ce CO2 va se redécomposer et va retourner à l'atmosphère. Ça, c'est un rythme tout à fait naturel. L'océan aussi est un gros puits à CO2 parce que le phytoplancton se nourrit de CO2 aussi, et aussi parce que l'eau absorbe le CO2, et comme les capacités d'absorption, on va dire, de l'océan sont encore assez importantes, voilà, c'est un puits à CO2. Donc la végétation et l'océan sont deux puits à CO2. Non, le CO2, lui, en fait, son problème, ainsi que les autres gaz à effet de serre, c'est qu'ils ont un potentiel de réchauffement au niveau de l'atmosphère. Parce que on a des rayons qui tombent sur notre planète, qui traversent l'atmosphère, qui sont absorbés et par l'atmosphère mais et par la Terre, mais il y en a ensuite qui sont réfléchis par la Terre, ou par la neige, ou par l'océan. Cette réflexion, normalement, lorsqu'il s'est réfléchi, ça devrait repartir dans l'espace. C'est ce qui crée un peu, d'ailleurs, le point lumineux qu'on peut voir, si c'est la Terre, lorsqu'on la regarde de loin. Mais tous ces rayonnements sont de plus en plus masqués par le CO2 et d'autres gaz à effet de serre, ainsi que par la vapeur d'eau. C'est la vapeur d'eau le plus gros gaz à effet de serre. Mais ça, on est habitué. Le CO2 arrive après, mais comme on en met de plus en plus, en fait, ça masque, ça fait un effet opacifiant aux rayons infrarouges qui n'arrivent plus à ressortir et donc qui réchauffent l'atmosphère. C'est un réchauffement de l'atmosphère. Alors on parle d'effet de serre, c'est pas tout à fait le même cas, mais c'est quand même le même principe à peu près. C'est pas une barrière physique, c'est une barrière chimique presque.
En tout cas, c'est la question qu'on va se poser cette semaine, c'est... On a l'impression de faire des choses tout à fait innocentes en écoutant du rock'n'roll et en buvant de la bière, mais en fait on participe peut-être au réchauffement climatique ce faisant. Comment tu vas t'y prendre pour mesurer le bilan carbone du festival au quart de tour? Est-ce que tu as des appareils?
À la limite, ma calculatrice, c'est tout. Non, non, il n'y a pas d'appareil. En fait, on part à partir de facteurs d'émission. C'est-à-dire que on sait qu'une voiture, si elle fait 100 km, si elle a 4 chevaux, elle va produire 22 kg de CO2. Si elle a 7 chevaux, elle va produire 27 kg, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle brûle tant d'essence, elle pèse tant de... Enfin, c'est ce qu'on appelle la méthode des facteurs d'émission. C'est une méthode assez robuste. Donc, c'est presque un bilan comptable. Bon, sur un festival, le bilan carbone, les émissions, elles sont surtout liées au transport. Au transport des festivaliers, ouais, ça va être principalement ça. Ensuite, le transport des artistes. Puis après, on aura la restauration.
La restauration, tu veux dire toutes ces fumées de merguez qui sont du CO2?
Non, non, mais la boisson, ça écluse pas mal quand même. Puis même, il faut la restauration.
La boisson, pourquoi? Parce que les pompes à bière, il leur faut de l'électricité. Et puis que les fûts de bière, il faut que des camions les amènent.
Oui, voilà, tout simplement. Ouais. Oui, puis il faut faire la bière. Alors, après, tout dépend des quantités, hein, comme toujours. Après, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir aussi, bon, bah, bien sûr, le plateau. Tout ce qui est électricité pour les dispositifs sonores et les dispositifs d'éclairage. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être gestion des déchets.
Parce que les déchets, les canettes de bière, les sacs plastiques, et tout ça, c'est du CO2 potentiel aussi ou en devenir?
Les déchets, ils ont un traitement qui a un coût environnemental. Hein. Voilà, c'est surtout ça. En même temps, ça vaut le coup de regarder les déchets dans le cadre d'un festival pour faire un peu, à l'instar du bilan carbone, un bilan déchets. C'est un bon indicateur aussi, la quantité de déchets par festivalier. Ça, c'est entre le compostable, le non-compostable, etc., etc., pour optimiser tout ça. Et après, il reste, oui, donc les toilettes aussi. Car là aussi, il y aura du CO2, mais voilà, mais bon, ça, c'est des postes mineurs.
Ce sera très intéressant, parce que depuis très longtemps, au quart de tour, il y a des toilettes sèches,
ouais,
dont le résultat se retrouve épandu dans certains champs. Est-ce que ça, c'est des kilos carbone qui se soustraient? Et peux-tu les convertir en pain de sucre?
Non, là, c'est délicat à dire. Néanmoins, si, bon, donc à les toilettes, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des infrastructures de traitement, donc assez lourdes, pour ensuite être traitées et ensuite restituées au milieu, voilà, ben on restitue ça, tout ça directement au milieu en employant des moyens, je veux dire, plus naturels, entre guillemets. Tant mieux, si on arrive à le faire ainsi. Après, il faut faire gaffe toujours au taux de DBO5, de DCO, etc., et au taux d'azote qu'on va balancer dans les champs.
Si je résume les différents postes que tu vas étudier, il y a l'énergie consommée pour le transport des festivaliers et des groupes, Le deuxième poste, c'est la consommation énergétique et électrique essentiellement des spectacles, c'est-à-dire son, lumière.
Ça peut être la restauration.
Un autre poste ensuite, donc important, la restauration, qui elle aussi consomme de l'énergie, parce que bah, y a du transport et il y a de l'énergie, parce que les pompes à bière, c'est pas des hamsters qui tournent dans des roues.
Il faut réfrigérer aussi.
Si c'est de l'électricité.
On a des grosses quantités, dès qu'il y a du nombre, il faut des moyens. Donc dès qu'il y a des moyens, il y a des émissions.
Et le dernier poste que tu as mentionné, c'est les déchets.
Oui, puis la communication.
La communication.
Oui, la communication.
Tu veux dire que quand on envoie des messages Facebook pour dire quel festival, ça fait tourner des centrales nucléaires. Ou alors le papier, non, utilisé pour les affiches 4x3.
Voilà, mais en fait, même s'il y a des postes mineurs, globalement, quand on fait un bilan carbone, on regarde aussi tous les autres aspects environnementaux qu'on peut voir. Les déchets, c'est vrai que c'est pas ça qui va émettre, surtout dans ce cadre-là, qui va émettre le plus de CO2. Néanmoins, ça vaut toujours le coup de regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine des déchets pour améliorer tout ça. En fait, arriver aussi à une forme d'éco-conception du festival pour optimiser dans chaque domaine. Pareil, la communication, bon, même si on utilise du papier, faire l'effort du papier recyclé, d'ancrage avec un prime vert, développer le numérique, hein, pourquoi pas, parce que ça, c'est sûr. Mais globalement, ça, c'est d'autres aspects des impacts environnementaux d'un festival, mais qui valent aussi le coup d'être traités. Mais globalement, vraiment, le plus gros impact, c'est le transport. C'est véritablement le transport.
Comment tu comptes procéder, évaluer à la louche combien il y a de voitures de festivaliers sur le parking ou te mettre à l'entrée du festival et compter les voitures?
Non, on va y aller par questionnaire, puisqu'on va à l'entrée du festival et par sondage, c'est-à-dire on va faire un échantillonnage de l'ordre de 10-15% des festivaliers, 10%. Et à partir de là, on fait une statistique simple qui peut permettre de faire une bonne approche statistique assez rigoureuse. Donc ça peut nous permettre d'avoir d'identifier au moins les émissions carbone pour ce poste-là. Après, pour les artistes, ce sera, bon, s'ils viennent en avion, ben, ça sera, par exemple, l'impact de leur voyage qui sera affecté à l'ensemble des dates de l'artiste. Et donc, ce sera son impact de voyage divisé par le nombre de dates pour juste la louer, des trucs comme ça. Faut juste mesurer, voilà. C'est ce qu'on appelle, on fait des scénarios et des hypothèses. Faire une photo exacte, c'est quasiment impossible, donc on bosse à partir de scénarios, d'hypothèses, d'approximations.
Il y a plein de festivaliers qui habitent à Tours et qui viendront au quart de tour en tramway. Oui. Est-ce que l'énergie dépensée par le tramway, machin, tu la prends en compte ou on met ça de côté?
Non, tout est pris en compte.
Tu vas pas diviser la ligne de tramway, divisé par le nombre de stations que...
Non, là, pareil, pour les facteurs d'émission, en fait, je travaille aussi avec les données de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui est en quelque sorte le bras armé gouvernemental pour tout ce qui est diffusion dans le domaine de l'environnement. J'utilise leurs outils liés au bilan carbone enfin qu'ils ont produit. Donc là aussi, ils ont déjà calculé des moyennes pour le nombre de personnes qui prennent sur un segment. Moi, je vais me faire une hypothèse aussi en termes de segments utilisés, c'est-à-dire je vais me dire, allez, ça part de la tranchée, et puis voilà.
Le centre-ville de Tours, quoi.
Ouais, c'est ça. Je prends ce segment-là jusqu'à au quart, et puis voilà. Donc j'utilise les chiffres de l'ADEME, et ça me permet d'avoir mon chiffre. Donc non, ça vaut le coup de mesurer ça aussi. Parce que quand on veut éco-concevoir un festival, en fait, on se rend compte qu'il faut faire l'éco-conception organisationnelle. Et celle-ci, elle se fait jamais tout seul. Elle se fait avec plein d'autres organismes qui n'ont pas forcément tous les mêmes buts. Non, là, il y a un tramway. Bon, c'est un moyen aussi de pousser les gens à utiliser plus les... À partir du moment où on fait un bilan carbone sur, par exemple, un événement, et qu'on sait dire, bon, on est à tant de kilogrammes de CO2 par festivalier, et qu'après, on met en place un plan de transport en commun plus important avec ceux qui gèrent les transports en commun, on aura l'air plus crédible si on a les chiffres d'un bilan carbone en leur disant, bon, voilà, on est là, on aimerait bien aller. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous pour soit diminuer les prix pour que les gens prennent plus les transports en commun, des choses comme ça. Voilà, ça permet d'avoir des bonbons dans le cadre de ce genre de choses. C'est-à-dire de vouloir optimiser les transports des festivaliers. Et encore, au quart, ça va, le lieu est très bien desservi, mine de rien. C'est pas le Hellfest. Oula, il faut quand même...
Faire de la bagnole.
Ouais, voilà, faut vraiment faire...
Ou de la moto.
Ou de la moto, ou du stop, ou du covoit. Mais c'est vrai que la localisation du festival a un impact fondamental aussi sur le festival.
Or, le festival de Quart de Tour, hein, ça se passe donc dans le lit du Cher, dans un endroit qui s'appelle la Plaine de la Gloriette, qui est une grande plaine au sud de Tours, entre Tours et Jouy-les-Tours, un espace dégagé où il y a un jardin pédagogique qu'on ira sûrement visiter. En fait, c'est drôle ton boulot parce que je suis déjà en train de fantasmer. Je me dis, mais peut-être que les festivals au Quart de Tour, à l'avenir, il y aura des rameurs ou des vélos d'appartement derrière les scènes. Et puis on proposera au public, en échange d'un demi, de pédaler. Genre, tu vois, il y a plein en plus, ça fera un peu comme à la foire, les trucs de force. Tu vois, tu tapes avec un marteau pour faire sonner la cloche. Bah là, au festival au Quart, peut-être que dans le futur, il y aura plein de vélos d'appartement derrière les scènes. Et puis on payera des demi aux gens du public pour qu'ils pédalent. Pour faire l'énergie, pour faire du bruit, pour faire du rock'n'roll amplifié, non ? Il faudrait beaucoup de vélos, non ? Ou de rameurs pour alimenter une grosse scène ?
Oh, une centaine ?
Ça peut se faire, non ?
Oh, je pense que des petits malins auront inventé les fermes à hamsters.
J'ai déjà vu alors une petite scène, une toute petite sono, truc de sound system, avec, je sais plus, un ou deux vélos d'appartement reliés. Et c'était les gens qui pédalaient, qui fournissaient l'électricité pour alimenter cette sono, quoi.
C'est tout à fait possible, bien sûr. Mais après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on a des gros moyens de diffusion, il faudra alimenter avec beaucoup plus de courant. Donc, petit festival, peut-être, avec une centaine. Mais non, pour l'instant, je suis nulle part là-dedans.
Comment t'es venue l'idée donc, de faire le bilan carbone du festival au Quart de Tour ?
L'idée m'était venue il y a très longtemps, d'ailleurs je l'avais commencé à le réaliser. Ben tiens, proposons ça au Quart, j'ai jamais été bénévole, ben, je peux bien leur faire ça.
Tu vas faire des propositions pour dire là on pourrait limiter. En fait ça va servir à quoi ?
Ça va servir sur deux aspects. Le premier, oui, c'est d'avoir donc des éléments clairs et surtout chiffrés. Pour pouvoir entamer dans tel ou tel domaine des actions qui peuvent entraîner une amélioration environnementale dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans la gestion de l'énergie, même si je suppose que tout est très bien fait, que s'il y a quelque chose à optimiser, ce sera certainement aux marges. Mais on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Ça va être bien aussi parce que quand même, si le festival dit qu'il a fait un bilan carbone, bah après pour faire de la sensibilisation auprès des festivaliers, ça fait plus sérieux. Plus sérieux pour sensibiliser et aussi ça peut faire plus sérieux ensuite dans les relations avec les institutionnels en prenant en compte cet aspect. Ça peut permettre aussi peut-être d'avoir d'autres subventions pour améliorer la gestion des déchets ou améliorer la sensibilisation du public ou l'éducation, etc.
Enfin, tu parlais d'éducation du public, je pense à un détail mais qui a son importance, puisque vous savez qu'un mégot de cigarette industrielle, ça peut absorber et recracher et retenir des dizaines de litres d'eau juste pour un seul mégot. Et il y a un truc que Ocar, comme beaucoup de festivals, fait depuis longtemps, c'est distribuer les petits cendriers de poche.
C'est une très bonne initiative parce que en plus dans le cadre du mégot, on est dans ce qu'on appelle les déchets diffus. C'est-à-dire c'est des déchets petits dont on fait jamais trop attention. C'est des petits bouts de plastique aussi qu'on peut avoir sur des emballages. Et en fait, ces déchets diffus sont les plus durs à gérer, à traiter, parce que comme ils sont diffus, les moyens à mettre en œuvre pour les ramasser sont toujours assez galères parce que quand t'as plein de canettes de bière par terre, bon c'est bon, là, tu les ramasses facilement, enfin je veux dire. Or donc les déchets diffus persistent toujours, ils restent toujours, ils traînent, les déchets diffus c'est chiant. Donc ça c'est une très bonne initiative, même si la quantité n'est pas énorme. Mais là on fait du bien au sol, on fait du bien à la biodiversité.
Je pense aussi à un autre truc que le festival au Quart de Tour, comme beaucoup de festivals, pratique depuis fort longtemps pour éviter les déchets de verre plastique, les canettes et ce que tu disais. Bah, c'est le gobelet. Le gobelet en plastique, voilà, tu donnes un euro de consigne, on te met des bières dedans. Et puis, quand le festival est honnête, ce qui est le cas au Quart de Tour, tu rends ta consigne et on te rend ton euro. Et ça, c'est autant de déchets en moins, donc de CO2 en moins déjà.
Ah oui, ça diminue de moitié l'impact de l'utilisation des emballages. Le fait d'utiliser des verres consignés, même si ils ont plus de matière plastique, comme ils ont une durée de vie, en fait, certaines analyses de cycle de vie donnent 10 usages, mais moi je pense que ça monte à 40 usages.
Les gobelets en plastique, mais tu rigoles, ils sont indestructibles. Les archéologues extraterrestres qui viendront dans 6000 ans retrouveront des gobelets de bière au Quart de Tour. 40 usages, mais on n'use pas un gobelet en buvant de la bière dedans quand même.
Tout dépend des fois où il a traîné. Non, non, ça c'est aussi une très bonne initiative qui est basée sur la consigne, la réutilisation. C'est des gestes tout à fait naturels qui devraient être étendus non pas seulement aux événements, mais à notre consommation quotidienne, aux gestes de tous les jours. Et ça, cette consigne ou cette attention à éviter de dépendre des déchets diffus qui vont être difficiles à ramasser, ça devrait être dans notre pratique quotidienne et non pas seulement à des endroits. Attention, parce que soit t'es en festival, soit t'es en zone naturelle, soit t'es... Mais bon, au moins en festival, si on répand ça, peut-être qu'après on arrive à répandre un peu plus ce geste dans le quotidien.
Bon, ma prochaine étape, on monte sur nos vélos. Donc on file à la Gloriette et on va aller rencontrer Pascal Robert, le président de Béton Production, et l'un des membres fondateurs de cette fabrique démoniaque de rock'n'roll qu'est le festival au quart de tour. Allez, en selle, en piste. On vient d'arriver dans le PC d'au quart de tour, dans la maison de la Gloriette qui d'habitude accueille les jardiniers. Et ça y est, les questions fusent. Comment convertir des kilos de CO2 en pain de sucre ?
En bière.
Voilà, le prez, son vrai nom dans la vie, c'est Pascal Robert. Il se dirige vers la tireuse à bière, donc qui elle aussi a un impact sur notre bilan carbone. Salut Pascal.
Bonjour, elle fonctionne au CO2 puisqu'on a on a une bonbonne CO2.
Tiens, je te présente Val.
Bonjour Val. Le bilan carbone, j'ai commencé à réfléchir quand même, un festival, c'est forcément négatif. Parce qu'on pourrait rester chez soi tranquillement, à dormir, voire à suicider, là où on serait sûr d'avoir un bilan carbone plat ou le plus neutre possible. Mais là, non seulement on se déplace, mais on invite des gens à se déplacer, parfois en venant de très loin. Les artistes, on les incite à traverser l'Atlantique, voire le Pacifique, voire, l'Himalaya, c'est-à-dire qu'ils viennent de Corée, tout ça pour venir jouer. Donc forcément... Le bilan, il est pas très bon. Alors après, ce bilan, il faudra le diviser par 20 000.
Hein. Par le bonheur que ça procure à tout le
bonheur,
monde.
Voilà,
aussi.
Le bonheur, voilà. Ça,
Est-ce que au quart de tour tue plus de gens qu'un bateau de croisière qui reste en port de Marseille, ne serait-ce que pendant un quart d'heure? Il n'a jamais été déterminé qu'au quart de tour donnait le cancer, ce qui n'est pas le cas dans le port de Marseille. Au quart de tour pourrait ne pas utiliser de gobelets recyclables jetables. Or, c'est le cas depuis des années. Au quart de tour distribue des cendriers de poche à ses festivaliers pour pas jeter ces horribles mégots de cigarettes industrielles un peu partout. Alors déjà, plusieurs choses qui sont en train de se dessiner, Pascal. Moi, j'ai un fantasme, je me dis, en payant des coûts aux festivaliers, avec une centaine de vélos d'appartement derrière la grande scène, on pourrait peut-être alimenter au quart de tour en électricité du mollet. Bah là, il y aura toujours des costauds pour pédaler, pour gagner un demi.
Dans une économie un peu post-apocalyptique, là.
Bah oui, bah c'est pour bientôt, on y vient.
Mais alors que là, l'abonnement...
comment pour faire au quart de tour après la fin du monde,
hein? L'abonnement ERDF, là, c'est 92 kV-ampères. Hein. C'est quand même des grosses puissances. Et je suis pas certain que des petits mollets de coque de jeunes drogués soient suffisants.
On a trouvé un concept terrible pour cette opération mesurer le bilan carbone de quart de tour.
Eh bien, c'est l'opération au carbone.
Elle est bonne.
Ça va claquer pour le dossier de subvention auprès des gens qui ont encore du pognon à filer à Ocar. Il y en a encore, non, des institutions?
Oui, mais ils ne sont pas spécialement obnubilés par le bilan carbone.
Putain, c'est super à la mode, c'est la fin du monde.
Oui, mais ça, c'est déjà Terre du Son qui a préempté la fin du monde.
Ah.
L'éco-festival.
Ah oui.
Nous, on fait dans la musique et eux, dans l'écologie.
Ah oui, d'accord. C'est bien connu. Terre du Son, donc l'antithèse d'au quart de tour, mais non, ce n'est pas le sujet.
C'est là-bas. Nous, on touche des subventions du conseil régional de la direction de la culture pour ce qui est de notre action culturelle et musicale. Terre du Son, ils sont arrivés après nous. Il n'y avait plus de thunes, plus de lignes budgétaires. Donc la ligne budgétaire qu'ils ont réussi à pécho, c'est celle de l'écologie. C'est pour ça qu'ils mettent très en avant leurs actions éco.
Ils mettent très en avant le fait qu'ils sont complètement excentrés, que tout le monde doit aller en voiture sur leur festival. Ça coûte très cher d'y aller. Et pour le prix d'un soir à Terre du Son, tu peux aller à Ocar pendant 12 ans.
Ça me rappelle un article dans la Rotative, je ne sais pas qui l'a écrit.
C'est moi, il a été signé cet article.
Bon, c'est pas le sujet.
Mais c'est vrai qu'il me provoque, tu me lances là-dessus. Le modèle vertueux de festival, c'est Ocar de Tour. C'est pas des gars qui sucent la mafia des tourneurs en payant des concerts de Mathieu Chédid à 125 000 euros et qui font trimer des bénévoles et qui les nourrissent avec de la merde pour engraisser des tourneurs de merde. Ocar de Tour, c'est bâti là-dessus. Mais si, putain de bordel, on est quand même des punks à l'origine, je me souviens. Raconte-nous la fois où, au sommet de leur gloire, les Berruriers Noirs, en 86, sont venus jouer à Ocar de Tour pour 200 francs pour manger du taboulé dans des gobelets en plastique non recyclables.
C'était pas 200 francs, hein, c'était 1500 francs. ça fait pas beaucoup en euros. Hein.
Pas loin de 200. Mais ouais. Bon, voilà, on parle bien de deux modèles, quoi. Un modèle où c'est pas cher, ou pour 30 balles, tu t'amuses pendant 5 jours, tu te fais servir des bières par des gens rigolos et déguisés, et les bénévoles, ils mangent bien. Alors qu'à Terre du Son, les bénévoles, ils sont exploités, et ils mangent de la merde, et en plus, ça coûte super cher. Et pour 30 balles, je suis même pas sûr que tu rentres un soir. Voilà, c'est bon, on a fini sur Terre du Son.
C'est à toi que je demande.
Val, cela dit, voilà, deux modèles philosophiques de festival et puis économiques aussi. À Terre du Son, il n'y a pas de ligne de tramway.
Oui.
Tu as soulevé le truc. À Tours, il y a une ligne de tramway, il y a des bus, on est en ville, les gens peuvent venir en vélo. Et Val, ce n'est pas le même impact. Voilà,
ne ça n'a rien à voir, parce que en fait, le transport des festivaliers représente facilement les deux tiers, voire plus, des impacts environnementaux d'un festival. Voilà. Après, en fonction des festivals, il peut y avoir soit le transport des artistes, soit les décors. Dans certains festivals lyriques, par exemple, ou des choses comme ça, les décors peuvent avoir aussi une très grosse importance. Et la restauration, voilà, ça s'équilibre entre tout ça. Donc c'est vrai que de toute façon, améliorer le transport des festivaliers, c'est la principale chose à faire. Bourges a bien bossé là-dessus. Ils ont réussi à faire des choses vachement intéressantes sur le transport des festivaliers à Bourges, parce que, pareil, c'est en milieu rural, on va dire, et ils ont su vraiment mettre en œuvre avec la SNCF et les transports en commun, tout ça, véritablement des rabais, des forfaits particuliers, tout ça. Pour un festival éloigné, c'est la seule solution. Et donc, c'est vrai qu'au quart de tour, situé comme ça, dans cette banlieue proche, vraiment distribué comme il faut et tout, c'est à ce niveau-là, on peut considérer que ça va être un bilan carbone déjà beaucoup plus faible.
Val, pendant qu'on a le Prez sous la main, Pascal Robert,
chauffer son barbecue. Oui,
améliorer notre bilan carbone en grillant des sardines. Pendant que Pascal sous la main, il y a donc quatre grands postes, les transports, l'énergie consommée par les scènes, en lumière et en son, il y a la restauration et il y a les déchets après.
Alors, il y a le transport des artistes, il y a la restauration, il y a tout ce qui est utilities, hein, c'est-à-dire électricité, gaz, eau, il va y avoir les déchets, il va y avoir la communication. Donc il y a tous ces postes-là, donc il va falloir j'ai des informations. Alors je pensais... Pour donc les festivaliers, faire une petite enquête tous les soirs sur un échantillonnage de 10% même des festivaliers à l'entrée. Ensuite, pour ce qui était des artistes, je comptais confier ça à une personne qui accueille les artistes sur le site ici. Ensuite, la restauration sera sur facture, hein, je pense, à la fin. Il faudra me dire à peu près qu'est-ce que vous avez acheté et tout ça. Et pour tout ce qui est transport et logistique, il faudra que je voie avec le régisseur quand même pour véritablement affiner les choses. Hein, quels sont les décors, comment on les a mis, d'où ils viennent, etc. etc. Et il y aura un aspect sur les déchets qui est assez important. Pour la personne qui s'occupe des déchets, faire un bilan déchets, même si je pense que vous gérez ça très bien. Et enfin, il y a la com, même si c'est très faible, voire... Donc c'est un peu un petit audit. Je vais vous demander des choses, mais enfin, je ne demande rien par rapport aux sous, c'est surtout les quantités. Moi.
Sur un festival, la plupart des choses sont quasi publiques, hein, parce que comme c'est un festival qui est subventionné, ça veut dire que nos données sont envoyées, décryptées par la ville de Tours, Tours Plus, conseil départemental, conseil régional, donc il n'y a rien de confidentiel. Voilà.
Donc voilà, ça va être un travail avec votre équipe, en fait, sur lequel il va falloir que j'ai des gars, un ou deux interlocuteurs dans ton équipe qui puissent me donner certains renseignements qui seront assez fondamentaux sur au moins le transport des artistes et puis aussi la restauration et puis aussi surtout tout ce qui est logistique par rapport à l'installation.
Ce que tu sais aussi, Pascal, c'est les gens, le nombre de festivaliers qui viennent à Aucar. Aucar, c'est sur 5 jours, un Aucar standard, genre celui de l'an dernier, ça accueille quoi? En moyenne 4000 personnes par soir?
Dans le style, en moyenne, ouais.
Dont un certain nombre en voiture, parce que le parking du festival...
Mais il n'est pas si gros que ça, donc il y en a plein qui viennent avec d'autres moyens, c'est sûr, c'est certain. Hein. Parce que les bus sont bien pleins.
Vous n'avez jamais fait d'enquête encore sur l'origine des faits?
Sur les origines? Si, on a des choses, mais relativement parcellaires, parce qu'elles sont uniquement dues aux gens qui ont fait des résas sur notre site.
Oui, ouais.
Comme c'est notre site qui récupère, on va dire, 50% des résas, ça donne quand même une bonne idée de...
Ah ouais,
voir, c'est de plus en plus, hein, de plus en plus.
Je pourrais avoir accès à ça.
Oui.
Et sur lequel on connaît l'adresse?
Sur lequel ils ont, en général, ils créent leur compte et donc on a leur code postal.
Code postal, ça c'est bien, d'accord.
Pascal, tu peux déjà, en fonction de ce que Val t'a dit, l'orienter vers des gens qui sont plutôt responsables de certains secteurs ou d'autres.
Tu les connais, les responsables?
Ouais.
On parle tellement toujours du bilan carbone, on sait que si on part en vacances au bout du monde, c'est très très mauvais. Maintenant, est-ce que le fait de faire un festival, est-ce que ça c'est très très mauvais ou pas?
Les loisirs, de toute façon, ont un impact sur l'environnement. Si on regarde les loisirs loisirs tels que le tourisme de masse, la généralisation des transports en avion. Donc ça a un véritable impact sur l'environnement. Donc il s'agit d'avoir des loisirs et de voir comment ça agit. Mais
je crois qu'il y a un deal. Il me semble que EDF, le courant fourni à Aucard de Tourne, est exclusivement éolien et solaire. Hein. Les amplis des rockers ne sont pas du tout branchés sur la centrale de Chinon.
Et tout s'arrête à 19h30, à 21h.
Bon, faut que j'aille faire cuire mes sardines, moi. Hein. Ah. Hein, sinon, le bilan carbone sera peut-être très bon, mais le bilan des bénévoles sera très très mauvais.
Toujours sur le PC de Quart de Tour, on est à quelques jours de l'ouverture et on est avec des rouages essentiels. Ils sont tous essentiels d'ailleurs dans cette grande machinerie du festival. Salut Sylvain.
Salut, salut.
Sylvain, il a notamment été technicien d'une émission anarchiste sur Radio Béton, qui s'appelle Demain le Grand Soir. Enfin, c'est un personnage assez mal famé, mais qui se rend utile sur le festival au Quart de Tour. Il est l'un des rouages essentiels. Et pourquoi ? Parce que Sylvain fait partie de cette équipe qui, pendant tout le festival, et même après que les portes du festival se soient fermées, nettoie les gobelets de bière recyclables et consignés, utilisés par les festivaliers. Et autant te dire que la bière est un peu le nerf du rock'n'roll quelque part. Pas de gobelets, pas de bière, pas de bière, pas de festival, pas de rock'n'roll. Val, est-ce que l'action de Sylvain, qui se fait chier quand même à laver ses gobelets, parce que c'est pas drôle de laver des gobelets, hein. Enfin, il y a des activités plus drôles pendant un festival.
La plonge, c'est un métier comme un autre, en restauration.
Ça se fait, c'est pas diffamant, c'est pas un problème, on le fait, quoi, tranquillement. Techniquement, en fait, on commence à laver les gobelets à 2h30, et on finit à 17h, donc... Quand les gens s'amusent, on est là, mais on lave pas les gobelets.
Aucar, c'est un festival qui, au grand maximum, peut accueillir, disons, 5000 personnes. Tu sais combien il y a de gobelets dans les stocks de Radio Béton ? Des milliers.
Des milliers, oui. On fait 60 gobelets par passage, et on en fait un passage toutes les 5 minutes, et on en fait pendant 3 heures. Débrouillez-vous avec ça.
Donc voilà, on l'a déjà évoqué, un festival qui utilise des gobelets en plastique qu'on jette à la poubelle après, bon, ce qui heureusement se pratique de moins en moins, bah, ça, entre guillemets, pollue plus, produit plus de CO2 qu'un festival qui recycle ses gobelets.
Oui, de toute façon, on a les gobelets en plastique car le verre est interdit. Pour des raisons de sécurité. À un moment, on a utilisé le jetable et puis la solution du gobelet réutilisable est venue, même si ça faisait moins rien. Ça a été très rapidement adopté. Donc on est dans le même cas que si c'était des verres en verre, à part que là c'est des verres en plastique qui sont réutilisables et qu'on utilise comme des verres en verre, c'est-à-dire avec le même respect, c'est-à-dire on va les réutiliser, c'est pas du plastique qu'on jette.
Calculette à la main, puisque c'est ton seul outil pour cette opération au carbone, est-ce que tu pourrais en fait, par exemple dans un cas de figure où au quart de tour utiliserait des gobelets en plastique jetables, est-ce que tu pourrais calculer le gain carbone, si j'ose dire, que l'action de Sylvain et des gens qui nettoient les gobelets ont ?
J'ai pas les chiffres en tête là pour l'instant, mais il y a...
C'est possible à calculer.
Ah, tout à fait. Même par rapport à des verres en verre avec la casse. Oui. Là, j'ai pas les chiffres en tête, je les préciserai plus tard.
Sylvain, on va pouvoir brûler un cierge rabis en pensant à toi. Tu te rends compte, il y a une espèce de colibri qui sauve la planète en lavant des gobelets, mais c'est génial.
Mais non. Tu l'utiliseras pas, mais dire, ferme ta gueule, quoi.
Voilà,
Étape suivante de notre exploration des rouages d'au quart de tour, la cuisine backstage du festival. Et comme on le racontait dans une précédente émission autour des recettes fétiches du festival, dont 40 ont été compilées dans un super bouquin intitulé « Popote and Roll, la cuisine pour 100 potes », un livre édité par Radio Béton, à au quart de tour, tout le monde est VIP. Bénévoles, techniciens et artistes mangent tous à la même table de délicieuses et créatives nourritures cuisinées avec amour, éthique et talent par la géniale équipe cuisine dont Véro est l'une des membres historiques. Salut Véro.
Salut JBD.
Je te présente Val.
Bonjour Véro.
Consultant qui a plein de compétences et qui donc va réaliser le bilan carbone de la 34e édition du festival au quart de tour. Et donc je suis ravi que vous vous rencontriez. Donc il y a un moment où Val va venir te voir pour faire quoi d'ailleurs ?
Pour voir un peu quels sont les produits qu'elle utilise, d'où ils viennent et quelles sont les quantités. Car en fait la restauration et aussi les boissons ont un certain impact environnemental sur un festival. Et en fonction des produits qu'on utilise, il peut y avoir des impacts plus ou moins importants, mais aussi en fonction des types de vaisselle qu'on va utiliser, d'ustensiles, etc. Surtout dans la vente à emporter, entre le jetable, le réutilisable, le lavable, des choses comme ça. Donc on va certainement discuter un peu de tout ça, et même de ce qui pourrait être amélioré, de ce qu'elle rêverait de faire. Très bien.
L'équipe dont tu fais partie est responsable de nourrir les bénévoles, les gens qui travaillent et les artistes qui travaillent sur le festival.
Donc, moi, j'aurais surtout besoin des quantités à un moment donné. Et en fait, ça correspond à combien de repas par soir, hein?
Sur l'exploitation, c'est autour de 260 repas par soir et environ 80 le midi. Mais au total, c'est 1570 repas qui vont être servis cette année, en comptant le montage, le démontage. Et... Les deux dernières années, on travaillait avec des producteurs locaux. Des petits maraîchers qui ont fermé boutique les uns après les autres. Quoi. Et donc là, on n'a plus de maraîchers qui nous approvisionnent. Ils venaient nous amener des légumes de leur jardin. Ça, on a fait ça deux années de suite et c'était vraiment bien, trois années même.
C'est le même principe que la MAP, finalement. On est aussi dépendant de ce qui a poussé au jardin. On ne sait pas forcément ce qu'on va cuisiner.
Oui, c'est pour ça que c'était jamais que la base, tu vois, c'était le complément. Ils nous amenaient des petits pois gourmands, ils nous amenaient des salades du jardin, ils nous amenaient des choses qui faisaient un complément et qui permettaient... pour nos buffets de crudité, d'agrémenter un petit peu l'ordinaire avec les produits de base. Mais par contre, tout ce qui est carottes, et etc., tu vois, les produits standards, on se fournit chez un grossiste.
En ce qui concerne le festival en lui-même, il y a des sandwichs, il y a plein de choses, ça correspond à des volumes importants, je suppose, par soir.
Alors ça, je pourrais difficilement t'en parler, on demandera aux personnes qui s'en occupent, mais...
Les lieux de nourriture sont autonomes. Je crois qu'avec François Ferris, qui est un bénévole qui a été responsable merguez pendant presque 30 ans à Au Quart de Tour, il s'est vendu tellement de merguez en 30 années, à l'époque on avait fait le calcul, que ça faisait une certaine distance Terre-Lune en merguez.
Ah, c'est fabuleux.
Je sais pas si c'est bon pour notre bilan carbone, ça. Parce qu'on a utilisé du charbon de bois pas mal aussi pour faire cuire toutes ces merguez.
Non, au contraire, le charbon de bois, ça a été du carbone immobilisé, qui est restitué, c'est comme ça.
On va sortir un peu du sujet. Mais moi, c'est un truc qui me semble super important. C'est qu'il y a des gens qui donnent de leur temps et de leur énergie et dans le plaisir pour venir travailler au Quart de Tour. Et un truc mais politique, pour moi, ce qui est foncièrement politique, que j'ai essayé d'expliquer à des organisateurs d'autres festivals, j'en ai pris un, je lui dis, tu vois le bénévole qui porte la barrière là-bas à Arras, ce soir, il sera assis à la même table que l'artiste, ils mangeront la même chose, et en plus, ce sera bon, et ce sera accessoirement servi par des gens sympas et souriants. Il y a des festivals où les festivaliers mangent de la merde, et où les bénévoles mangent de la merde.
Moi, je dirais que c'est leur problème.
Est-ce que ça coûte plus cher de bien nourrir les gens, de bien nourrir les bénévoles, que de leur donner de la merde?
Pour moi, non.
Par exemple, j'ai un copain, il est techno, il travaille aussi sur Ocar, il leur a dit « je suis végétarien, repas, une assiette en plastique avec une poignée de chips et une tranche de rôti de porc ». Le gars, il leur dit « je suis végétarien ». Il dit « ah bah c'est pas grave, t'as droit à un wrap de chips ». Alors ça, à Ocar, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'à Ocar, il n'y a jamais eu de grève de bénévoles.
Non, alors nous, on met un point d'honneur à bien restaurer les bénévoles parce qu'ils sont déjà bénévoles, ils donnent déjà de leur temps, ils donnent de leur énergie, ils se fatiguent. Si en plus, ils ne mangeaient pas correctement, ça serait un comble. Et puis, un bénévole, ça vaut un artiste. Je ne vois pas pourquoi, ou un technicien, enfin tout le monde
vaut
la même chose. Honnêtement, je trouve ça vachement sympa parce que tout le monde mange sur les mêmes tables, tout le monde se côtoie, les artistes parlent avec les techniciens ou avec les bénévoles et c'est agréable pour tout le monde. Et on n'a jamais eu aucun artiste qui a fait la gueule en disant comment ça se fait qu'on n'a pas un restaurant privé ou tu vois. Aucun artiste n'a jamais rien dit, ils mangent avec tout le monde, ils sont très contents.
Et... Pas de carré VIP à Ocar. Si, tout le monde est VIP à Ocar.
Tout le monde est VIP en fait.
Voilà, mais c'est génial. Et donc j'en reviens à ma question, est-ce que ça coûte plus cher de bien nourrir les gens, de leur faire une entrée, un plat, un dessert, que de leur balancer une poignée de chips à la gueule, quoi?
Non, pas forcément plus cher, parce que la plupart des festivals font appel à des traiteurs, où ils ont de la cuisine semi-cantine, quoi, et où ils doivent payer les repas autour de 10 balles, le repas. Nous, globalement, ça nous revient, on va dire, autour de 4 euros par repas, parce qu'il y a les effets de seuil, de quantité, etc. Et puis parce que tout le monde est bénévole. Parce que toutes les personnes de la cuisine, on est 10-12 à bosser toute la semaine et on ne compte pas notre main-d'œuvre. Donc dès que tu achètes chez un traiteur, forcément, il y a la valeur ajoutée de l'infrastructure, des salaires, etc.
Moins de deux fois moins cher, en fait, que de faire soi-même, que de faire par quelqu'un.
Et on n'achète rien tout fait aussi, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'achète pas quand on fait de l'houmous, on ne fait pas de l'houmous en boîte, on ne fait pas, tu vois. Quand on fait même les pâtes à tarte, on les fait. Donc, au bout du compte, ça te coûte moins cher quand tu fais. Mais ça te demande de l'énergie et du temps.
Il y a de l'amour dans les plats, alors.
Et il y a de l'amour, toujours, plein d'amour, il n'y a que ça.
Que ça, j'ai toujours su que c'était un truc de hippie, radio béton, de toute façon.
Non, mais c'est clair. Mais quand tu fais toi-même les choses et que tu n'achètes pas des produits industriels, forcément, ça coûte moins cher.
Quand tu travailles un produit naturel, tu penses aux paysans, tu penses à la terre. Tandis que quand tu ouvres une boîte, tu penses à une usine, tu penses à du travail avec des chefs, avec des machines. Le cogito dans ta tête est différent en fonction de que tu prennes des produits naturels que tu travailles toi-même ou que tu prennes des produits transformés avec toute cette chaîne industrielle.
C'est du calcul déguisé en amour, parce que moi je vais vous dire le fond du fond. C'est que les artistes, les tourneurs et tout ça, ils se passent le mot. Au quart de tour, c'est des pleureuses, parce qu'ils n'arrêtent pas de pleurer les tarots pour faire baisser les... Ici, au quart de tour, on n'a pas les moyens de payer 125 000 euros pour avoir le bonheur de voir Mathieu Chédid une heure et demie sur scène. Bertrand Cantat, qu'on adore, 50 000 euros, ça fait quand même un petit billet. Donc voilà.
C'est pas grave, hein. Il passera ailleurs, hein. C'est pas grave.
Tout ça, c'est du calcul, parce que en traitant bien les gens, les bénévoles, et notamment les artistes, les artistes et les tourneurs, ils se repassent le mot. Ils disent, ouais, au quart de tour, c'est des pleureuses, mais c'est vachement sympa. Et en plus, on mange bien. Et ça se sait depuis plus de 30 ans. Et moi, j'ai vu aussi les artistes qui repartaient d'ici parce que demain, il fallait qu'ils soient à Strasbourg ou je sais pas où et qui faisaient la gueule parce qu'ils disaient merde, on n'avait pas pigé qu'on était tombé dans un truc de baba cool, super sympa où on mange bien et ça nous fait chier de partir.
Non, mais c'est aussi une philosophie du festival de faire un festival de découverte et pas de faire un festival de tête d'affiche. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 35 ans que ça existe. Si à un moment, on avait eu envie de prendre le tournant et de se dire on fait un gros emprunt. On monte en puissance, on devient les vieilles charrues. On aurait peut-être pu le faire et peut-être que ça aurait marché. Mais on n'a jamais eu envie. On ne veut pas. On veut rester dans notre jauge. C'est quelque chose à notre taille humaine. On maîtrise, on aime bien. C'est un peu la colo pendant 10 jours. Voilà, c'est un choix, c'est un parti pris.
Psychologiquement, je trouve qu'à plus de 3000, on est trop.
Écoute, la jauge, la limite est à 3500 ou je sais pas quoi. On ne l'atteint pas tous les soirs, donc je pense que c'est bon. Hein.
Un gobelet jetable au quart de tour, magnifique, qu'on collectionne tous parce qu'on adore ça, ça nous rappelle des bons souvenirs. Ça a une durée de vie de combien de temps? J'en ai lavé plein l'année dernière et on en a jeté aussi parce qu'il y en a qui étaient...
Alors on est en train de se poser des questions par rapport à ça, parce que si tu veux, ça fait 10 ans qu'on fait des gobelets réutilisables, ça fait 10 ans qu'on change de logo chaque année et que c'est sympa, mais les gens commencent à en avoir plein, et nous ça commence à nous emmerder d'avoir des gobelets qui vont finir par être jetés au bout d'un moment.
Je sais qu'on en a acheté parce qu'il y avait un peu de, tu sais, des traces de moisie, sur du plastique.
Et ça c'est quand ils sont mal nettoyés ou des trucs comme ça, sinon ça vieillit. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est développer l'idée que les gens viennent avec leurs gobelets et qu'on ne soit pas obligé d'en racheter chaque année. En fait on en achète parce que les gens viennent sans gobelet, tu vois.
Il y a l'histoire du logo.
Oui mais ça c'est de la com. Mais à la limite, on serait capable de faire l'impasse sur la com si les gens venaient avec leurs gobelets et qu'on n'était pas obligé d'en acheter. Parce que ça nous fait quand même mal au cœur de racheter chaque année 10 000 gobelets, dont on ne sait pas comment ils vont être recyclés, si tu veux. Nous, on réutilise les gobelets de l'année d'avant et on les remet en circulation, mais chaque année, on n'en a pas suffisamment par rapport à la jauge attendue, donc on est obligé quand même d'en racheter. Mais on se dit, depuis le temps qu'il y a des gobelets réutilisables et que tout le monde en a 15 chez lui, s'ils venaient avec leurs gobelets, on ne serait plus obligé d'en acheter. Et ça serait vraiment réutilisable. Quand je vais dans un festoche, j'emmène mon gobelet.
J'aime beaucoup me faire ma collection de gobelets au quart de tour. Je dis, tiens, cette édition-là, il a plu.
Ces gobelets, au bout d'un moment, va bien falloir en faire quelque chose. C'est du plastique. Hein.
T'estimes que ça a une durée de vie de combien de temps?
Les plus vieux ont une dizaine d'années. Hein.
Moi, j'imagine une dizaine d'années de verres en plastique jetables. T'imagines la montagne que ça fait?
Ah oui, on est complètement d'accord. Alors, il paraît qu'en janvier 2020, on n'aura plus le droit d'utiliser aucune vaisselle plastique jetable. Alors, nous, sur le montage, on utilise de la vaisselle à usage unique parce qu'on n'a pas... Les infrastructures ne sont pas montées. Mais sinon, on a de la vaisselle en dur. Les couverts, les assiettes, tout est en dur.
L'autolavage, c'est-à-dire chacun se lave son assiette, son couvert, et il le remet...
On a un petit peu essayé, ça marche très moyennement.
Je connais un festival, l'Intergalactique, qui fait ça. Bon, ça marche à peu près bien, mais c'est une jauge plus petite. C'est vrai qu'à une grosse jauge, l'autolavage, je me demande comment ça marche. Je suis d'accord. Je l'ai déjà vu bien marcher sur un festival de jauge, 500, 800 personnes. Ça marche. Plus, c'est vrai qu'après, rapidement, ça peut être un peu le bordel. T'as toujours des éléments qui échappent.
Même au niveau de la cuisine, là, on essaye de motiver les gens pour qu'ils débarrassent leur table, qu'ils mettent dans les bacs adéquats leur vaisselle.
Ça tourne pas trop mal, ça?
Ça tourne pas trop mal, mais il a fallu quelques années pour que ça s'implante. On n'en est pas à leur faire laver leurs assiettes, on a un lave-vaisselle. Donc on lave la vaisselle au lave-vaisselle.
Par exemple, les gobelets, quand on a une dizaine en collection, on peut le recycler en chamboule tout, on peut en faire d'autres choses différentes que juste les utiliser en tant que gobelets. Les durées de vie ne s'arrêtent pas forcément à l'usage de boire dedans, finalement.
Ce qu'il dit, c'est un peu un des concepts assez importants de la réutilisation et de la nouvelle vie, des concepts sur l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'un produit, ensuite, à la fin de sa vie, redevient un autre produit dans un autre domaine.
Lavoisier, rien ne se perd.
Et puis là, dans la nature, hein, tout simplement. Bon, après, faudrait faire des chamboules tout partout, quoi. Et c'est pas la tendance actuellement.
Cela dit, ma question de gobelet n'était pas si conne. Et finalement, je me rends compte qu'elle est aussi à cheval sur deux champs qui t'intéressent, Val, c'est-à-dire les déchets et la com.
Faire de la com, mais si la com doit coûter très cher en termes d'écologie, faut faire gaffe à la com. C'est pas tellement une question de coût, parce que ça doit coûter peut-être 4-5 000 euros.
10 000 gobelets ?
Ouais, tu vois, ça doit coûter 50 centimes le gobelet, un truc comme ça. Je dis peut-être des conneries, hein, faudra demander à Flavie. C'est pas tant un problème de coût, parce qu'à la limite, t'as un objet marketing par rapport aux consignes. C'est pas un problème économique, c'est un problème vraiment, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gobelets au bout du compte, quoi ? Qu'est-ce qu'on va en faire ?
Les gens en ont stocké plein chez eux.
Ben oui, mais un jour, ils en auront marre, ils vont les jeter.
Le gobelet, moi, je dirais à JB, faudrait qu'il arrête le fétichisme du gobelet.
Bah c'est super, merci beaucoup. Bon festival à toi. Que tu vois jamais, parce que ça fait combien de millions d'années que tu passes au quart de tour en cuisine ?
De temps en temps, je vais sur le site, mais deux fois, je suis sortie complètement bourrée. J'ai jamais réussi à retrouver mes cuisines. D'accord. J'étais obligée de me faire accompagner, donc je fais gaffe maintenant.
T'es allée voir les shérifs l'an dernier quand même ?
Ouais, j'étais voir les shérifs. Et là, j'irai sûrement voir la Rouda quand même.
On le disait en début d'émission, cette série Au Carbone t'est dédiée, Steph. Toi qui étais notamment fan de reggae. Mais là, on va pas écouter de reggae, mais pour faire plaisir à notre belle Véro, on va se faire un extrait du concert que les légendaires shérifs ont donné sur l'édition 2018 d'Au Quart de Tour. Un live enthousiasmant et émouvant, plein de sueur et d'amour. Et c'est spécial dédicace à toi, Véro, que j'adore depuis maintenant plus de 30 ans, tout autant que ton Pascal chéri, et tout autant que toutes et tous les bénévoles d'Au Quart de Tour et de Radio Béton. Et comme le chantaient les shérifs au millénaire dernier, la radio libre comme Radio Béton, ça n'a rien à voir avec cette saloperie de télé qui nous a tant intoxiqués.
Vous savez, il y a longtemps, avant Internet, on était fanatiques de télé.
Et merci au shérif que j'aime encore plus aujourd'hui qu'au millénaire dernier. Ce premier épisode de notre série Au Carbone est à réécouter sur notre site polymix et lavoixoff.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast. En attendant, on se donne rendez-vous sur ta radio préférée pour la suite du calcul du bilan carbone du génial Festival au Quart de Tour, le festival de Radio Béton, 93.6, le chiffre de l'amour et des saucisses, mais bio, voire végétarienne. Bon, salut.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.